Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes rentré dans le hall, vous êtes passé en dessous un rideau. Maintenant que vous le dites. Oui, oui. La question a été posée lors d'une rencontre de groupe de maison à Durtal. Pourquoi tellement de sang dans la Bible? Presque à chaque page, et surtout dans le Premier Testament, il y a du sang partout. C'est violent, etc. Et en cette occasion de Pâques, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir reprendre ce thème pour nous tous. Si tu peux lancer le PowerPoint. Voilà, tout simplement, le sang. Je voulais mettre ça avant, mais je l'ai lu. Je vous rappelle notre thème de l'année. Puisque nous sommes ressuscités avec Christ, transférés, transportés dans son royaume, cherchons avec soin et de manière méthodique les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car notre positionnement doit se trouver dans le ciel où Jésus est assis. Nous l'avons entendu fort bien dans l'introduction à la scène, il n'y a pas de résurrection sans mort. Ça paraît évident, mais c'est quand même comme ça. Dans Éphésiens, au chapitre 1er, le verset 7, il nous est dit « En lui, donc en Jésus, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » C'est la traduction S21. Dans la parole de vie, le même verset nous dit « Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. » Tellement la bonté de Dieu est grande. Enfin, dans Parole vivante, qui n'est pas une traduction, mais une transcription, c'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ceux qui nous tenaient en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Cette dernière transcription est assez forte. Ça a l'air d'être surtout dans notre société, à nous, occidentale. Ça a l'air d'être un peu compliqué, un peu dur de recevoir le fait que c'est parce que Jésus a donné son sang, qu'il a versé son sang, qu'il est mort, que nous avons la vie. Y avait-il pas un autre moyen? Est-ce qu'il n'aurait pas pu se débrouiller, Seigneur Dieu, pour faire autrement? Il semble que non. Est-ce que vous vous rappelez, certainement oui, du premier sacrifice dans la Bible, du fait à cause du péché? Oui. C'est ça. Une fois que... quand Caïn... Non, c'est pas Caïn et Abel. C'est, comme dit Alain, c'est au moment où Adam et Ève ont péché. Et Dieu, il a dû tuer un animal pour leur faire des vêtements. Oui, le Seigneur a été couturier. On peut voir ça comme ça, quoi. Hein. Entre autres. Le Lévitique nous dit ça. Non, bah tiens, c'est pas... c'est pas celui-là. Là, je ne l'ai pas là, mais ce n'est pas grave. Dans le Lévitique, il nous est dit, chapitre 17, le verset 11, « Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. » Nos traductions disent « C'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. » Et vous avez certainement compris la symbolique de ce rideau rouge dans le hall par lequel vous êtes passé. Dans Exode, au chapitre 12, le verset 7, on prendra du sang de l'agneau de Pessah et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on en mangera. Le sang sera un signe en votre faveur sur les maisons où vous êtes. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point pour vous de plaie meurtrière quand je frapperai le pays d'Égypte. Du sang sur les montants des portes et sur le linteau. Il ne m'est pas trop possible ce matin de vous parler de cela. Peut-être juste quand même pour nous rappeler que dans Jean au chapitre 10 et le verset 9, Jésus nous dit qu'il est la porte. « Je suis la porte, dit-il, celui qui entre en passant par moi sera sauvé. » Passer par la porte. Et cette porte est Jésus. En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette idée du sang versé, c'est que Jésus a fait un troc. Il nous dit à chacun d'entre nous, à cause de ton péché, tu dois mourir. Et finalement, je prends la décision de mourir à ta place. Ça s'appelle du troc. La mort qui te revient, je la prends à mon compte et c'est moi qui meurs à ta place. Je trouve que c'est quand même dingue, quoi. C'est très fort lorsque on intériorise cette grâce que le Seigneur nous donne. Connaissons bien sûr ce verset qui nous dit dans Romains chapitre 6, le verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Le tien, le mien, le nôtre, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Les sacrifices du Premier Testament, qu'on voit tellement, et c'est des fois compliqué. C'était prophétique. C'était pour nous amener au sacrifice de Jésus lui-même. Certains ont cru que Dieu avait un plan B. Mais ce n'était pas un plan B. Daniel l'a juste évoqué comme ça, mais dans Apocalypse, au chapitre 13, le verset 8, nous parle de ceux dont le nom n'est pas dans le livre de vie, dans le livre de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. En clair, ça veut dire que la décision du sacrifice de Jésus a été décrétée avant même que la terre et l'univers ne se forment. C'était déjà là-haut, c'est pas un plan B, mince, une erreur, on va trouver un truc pour essayer de réparer. Non, non, c'était avant la fondation du monde, le Christ était déjà immolé. C'était déjà convenu comme ça. Ça sort un peu de l'entendement, mais c'est ça. Personne ne m'ôte la vie, dit Jésus, c'est moi qui la donne. Jean, chapitre 10, verset 18. Toi et moi, nous qui sommes disciples de Jésus et qui marchons avec lui, avant notre naissance, nous avons été appelés à être disciples. Je le dis et je le répète parce que ça me fait du bien. Mais lorsque le Seigneur est venu, j'étais à une pastorale à Poitiers, un homme est venu, m'a dit, il y avait un Américain qui était là et il priait pour tout le monde, et puis en étant devant moi, il a dit, « Toi, tu as failli mourir 3 fois, mais Dieu t'a gardé. » Et j'ai posé la question au Seigneur, « Ok, je sais déjà que j'ai failli mourir. Ma mère m'avait dit, j'ai réussi à avorter ton frère ou ta sœur qui était avant moi, et j'ai réussi à avorter... celui ou celle qui était après toi, mais toi, malgré tous mes efforts, j'ai pas réussi à t'avorter. » Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis que que j'ai été épargné de la mort 3 fois et je voulais pas juste accepter ce qu'il me disait là, je voulais comprendre. Ça a duré, je crois, 5 mois de prière, en lui disant, « Pourquoi tu me dis ça? Je veux savoir. » Jusqu'au jour où le Père est venu me visiter pour me dire, « Bernard, je vais t'expliquer. Quand je t'ai vu dans le ventre de ta mère, j'ai dit... à ceux qui étaient autour de moi, aux anges, à Jésus, à l'Esprit Saint, j'ai dit, je l'aime bien ce petit gars-là. Je veux qu'il vive l'éternité avec nous, parce que si Bernard n'est pas avec nous dans l'éternité, il va manquer quelqu'un. Pas possible, Seigneur. Je mérite rien. Qu'est-ce qu'un fœtus peut faire? Rien. Aucun mérite, ça s'appelle la grâce, immérité. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous puissions vivre avec lui. Dans Galates, au chapitre 1, je ne sais pas où j'en suis moi, bref. Grave, c'est ça que je voulais. Dans Galates, au chapitre 1, verset 15-16, Pourquoi ? Ben parce que c'est le bon plaisir de Dieu qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère pour révéler son Fils en moi, dit Paul. Ces deux versets, j'ai fait court. En fait, Jésus a donné sa vie, a versé son sang pour le plaisir qu'a le Père éternel de nous avoir avec lui, déjà ici sur terre, et plus encore après dans l'éternité. Est-ce que vous pouvez juste imaginer un moment, je ne sais pas si vous voulez fermer vos yeux, mais lorsque le Seigneur te regarde, il est là et il trépigne. Ouais ! Sarah va être avec moi, elle est avec moi déjà dans les cieux. Et on peut mettre chacun de notre prénom. Ouais ! Ouais, dit le Père. Il saute de joie, il applaudit. Hey ! Et à chaque baptême qu'il y a, il se réjouit en disant « Waouh ! Un disciple du Christ, il va pouvoir, elle va pouvoir vivre avec nous déjà sur terre jusque dans l'éternité. » Le bon plaisir de Dieu qui trépigne. Ah, certains pensent que Dieu est là, sur son trône. Il regarde. Non. Il est plus cool que ça, quoi. Il trépigne. Il danse. Il applaudit. Ouais. Vous le voyez faire ça ? Ouais. Ah ouais. La joie et le plaisir du Père de nous avoir comme fils et comme fille, chacun personnellement, chacun d'entre nous, chacun individuellement, pour son bon plaisir. Cela dit, nous sommes appelés aussi à marcher avec lui, aussi pour son bon plaisir. Moïse égorgea un bélier, il prit de son sang et mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. C'est parce qu'il y a plus de droitiers que de gauchers, mais voilà, n'y voyez pas de soucis. L'oreille. Alors, je pense qu'il fait un peu la même chose avec nous, par l'Esprit Saint. L'oreille nous parle de la marque, on peut dire, de Seigneur souhaite que nous puissions écouter. C'est pour ça que c'est sur le lobe de l'oreille. Ça nous parle de l'écoute. Sur le pouce, parce que... on serait bien embêté si on n'avait pas de pouce. Le pouce nous parle de ce que nous faisons, nos actions. Notre orteil nous parle de notre marche. Le sang de Jésus est versé aussi et est aussi mis symboliquement, on peut dire, sur notre vie, notre oreille, notre pouce, notre orteil, afin que nous puissions marcher avec lui. Avant de conclure, je voudrais juste faire un petit détour pour dire que le sang dans le Premier Testament avec comme but premier le pardon des péchés. Et le sang de Jésus fait toute la différence dans le sens où c'est fait une fois pour toutes. Il n'y a plus à y revenir, plus besoin de sacrifice, une fois pour toutes. Par contre, Satan, l'ennemi de Dieu, réclame encore aujourd'hui, lui, il réclame du sang. La guerre en Ukraine, les guerres en Afrique ou ailleurs sont autant de sang réclamé par Satan qui contrefait ou qui essaye de contrefaire le projet du pardon au travers du sang. Lorsque je suis en accompagnement de quelqu'un qui a fait un pacte de sang avec quelqu'un d'autre, ça amène à de la possession, très souvent. J'ai accompagné quelqu'un, on était trois, nous avons accompagné quelqu'un dans la délivrance démoniaque. Et la personne qui m'avait dit, tu vois, cette personne est possédée, je dis, ouais, mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'y toucher, enfin bref. Et donc lui, il me disait, en 20 ans de ministère de délivrance, ça fait la deuxième fois seulement que je vois quelqu'un de possédé autant. Et je lui ai dit, ah, est-ce que la première fois, ce ne serait pas ce gars que j'ai rencontré avec un autre, ils ont vu une jeune fille passer à vélo, ils l'ont attrapée, ils l'ont sacrifiée à Satan dans la forêt. Nous avons accompagné quelqu'un avec Daniel. Une jeune femme qui était enceinte, elle a accouché dans une maison à Angers, dans une secte sataniste, et elle n'a jamais revu son enfant. Angers. Satan essaye de faire la même chose, il réclame du sang, mais pour la destruction, pour le malheur. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire, voler. Mais moi, je suis venu pour apporter la vie en abondance. C'est entre autres la différence. Satan vient pour détruire, il réclame du sang. On le voit au travers de toutes ces guerres. J'ai eu un SMS, enfin un truc WhatsApp là, de quelqu'un que je verrai. Bref, il a été membre de notre église. Il est à Niort maintenant et il envoie un mail en disant « Nous avons un frère en Christ qui a été à la guerre en Ukraine, là. Ils étaient 135 dans son groupe et il en reste une quarantaine. » Et il dit « Priez pour moi, le frère, priez pour moi, que le Seigneur me garde. » Satan réclame du sang, mais pour détruire. Jésus a donné son sang pour que nous puissions vivre. Le sang Dit Exode, chapitre 12, le verset 3, « Le sang, nous l'avons lu, le sang sera un signe en votre faveur sur les maisons où vous êtes. » Ça nous parle de la protection. On m'appelle parfois pour aller prier, je ne suis pas tout seul d'ailleurs, on appelle d'autres personnes de l'église pour aller prier dans les maisons, pour les nettoyer. J'étais impressionné dans une maison à... Je crois que c'était à Durtal. On y est allé plusieurs fois parce que dans cette maison-là, les personnes voyaient une tasse à café et une cuillère dedans. Et la cuillère, elle tournait toute seule. Et donc, nous sommes allés plusieurs fois. Et la dernière fois, dans une des chambres, je reçois la révélation que là, dans cette chambre, sur ce mur, il y a une gamine qui a été violentée au point d'en mourir. Et la femme de dire, « Ah, c'est pour ça que mon fils, à chaque fois, voit une petite fille. » Je ne veux pas plomber l'ambiance. Je veux simplement dire que nous sommes appelés à être dans un autre royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu et non pas dans le royaume de Satan. Et que le Seigneur nous dit, tu es dans un autre royaume. Recherche les choses qui sont en haut. Et non pas celles qui sont sur la terre. Mets tes yeux et ton regard sur le royaume de Dieu. Notre positionnement en Christ est important. Alors la première fois, effectivement, qu'on parle plus particulièrement du sang dans le Premier Testament, c'est justement à l'occasion de l'assassinat de Caïn, d'Abel par Caïn. Et Dieu lui dit un truc assez incroyable. Dans Genèse, chapitre 3, le verset 10, Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Incroyable, le sang qui crie. Je vois comment le sang crie, mais Dieu voit, Dieu entend. S'il est heureux pour chaque personne qui se tourne vers lui, il est dans la tristesse à chaque fois que quelqu'un est assassiné. Les martyrs, le sang des martyrs aujourd'hui, crie encore jusqu'à Dieu. Notre positionnement, je le disais donc, ne peut, dans les cieux, ne peut venir qu'au travers du sang de Jésus-Christ versé pour chacun d'entre nous, où Jésus-Christ a troqué notre mort contre la sienne. Daniel l'a évoqué, Christ, notre Pâque, a été immolé, nous dit 1 Corinthiens, au chapitre 5 et le verset 7. Je voudrais terminer là-dessus. Apocalypse, chapitre 7, versets 13 à 17. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils ? D'où sont-ils venus ? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi Ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les habitera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est quand même étonnant. En tout cas, on a du mal à imaginer que on trempe notre robe dans le sang et puis elle devient blanche. C'est mieux que la lessive, hein. Là aussi, je pense que c'est du troc. En ce jour de Pâques, soyons dans la joie et dans la reconnaissance pour le sacrifice de Jésus-Christ qui meurt à notre place, afin que le Père puisse se réjouir. Amen. C'est vrai, j'avais noté, on ne s'est pas concerté avec Daniel, j'avais noté aussi la question des marques de Jésus. Oui, on le reconnaîtra aussi avec les marques. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que lui, Jésus, reste avec les marques, alors que nous, tous nos handicaps vont s'envoler. C'est chouette quand même. Plus de handicap. Avec lui, dans la joie. Je vous invite à prier. Jésus, nous voulons te bénir et te remercier de ce que... dans ton amour, du fait que tu nous aimes, du fait que tu aimes le Père, tu as bien voulu troquer notre mort contre la tienne. Et on parle bien d'une mort éternelle, d'une mort spirituelle. Tu es mort afin que nous ayons la vie. Et nous voulons, en ce jour de Pâques, te bénir, te louer, de glorifier. Ça dépasse notre entendement, surtout lorsqu'on pense que c'était avant même la fondation du monde. Toi, dans ta science, dans ta prescience, dans ta gloire, tu voulais que chacun d'entre nous, et plus encore, se tourne vers toi afin de bénéficier de cette grâce et de cette joie et de ta présence. Déjà ici-bas, mais aussi durant l'éternité. Alors loué sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen.